Bonsoir, merci d'être présents aussi nombreux. Parmi vous, il y en a qui sont ici de manière obligatoire, qui sont nos étudiants, on nous a presque obligés de venir. Non, ils remplissent le quart de la salle comme ça et c'est parfait. Nous allons inaugurer ce soir la première conférence dans le cadre de la Semaine du Cerveau. Je vais vous présenter rapidement ce que c'est que la Semaine du Cerveau. Donc, la première Semaine du Cerveau a été créée par la fondation Dana Alliance en 1996 aux États-Unis. Suite à cette création, il y a eu aussi l'Alliance européenne, juste en suivant, et de neuroscientifiques en Europe se sont ralliés pour signer une déclaration pour promouvoir la recherche en neurosciences pour la prochaine décennie. Donc on a dépassé, ce qui montre que c'est une manifestation qui fonctionne très bien. Donc en 1998, c'est devenu un événement majeur. Ça a lieu toutes les semaines dans pratiquement toutes les villes européennes, mais aussi d'autres villes d'Afrique, aux États-Unis, bien entendu, au Canada, en Australie. En France, elle est organisée sous la responsabilité de la Société des neurosciences. La Société des neurosciences française, c'est la plus grande société savante en France. Elle regroupe plus de 3000 chercheurs, plus ou moins quelques centaines. Et c'est la plus grande société de neurosciences en Europe, à savoir que parmi les autres sociétés de neurosciences partout en Europe, c'est la Société française de neurosciences qui regroupe le plus grand nombre de chercheurs et de thésards. Donc c'est notre société qui chapeaute cette manifestation en France, dans plus de 20 villes, dont Poitiers. Nous l'organisons à Poitiers depuis plusieurs années, grâce au soutien, à l'aide, à la participation de l'espace Mendes France, qui nous accueille tous les ans dans ses locaux. Je les remercie chaleureusement et très sincèrement. Donc, bien entendu, c'est fait en partenariat avec l'association Dana Alliance, à l'origine de la Semaine du Cerveau, et la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau. Alors, la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau n'est pas une fédération, n'est pas une société savante, c'est un regroupement de plusieurs associations de malades. Donc on n'en fait pas partie, je vous transmets l'information. Donc c'est l'association France Parkinson, l'association Alzheimer, l'association contre la sclérose en plaques, etc. Donc c'est une fédération qui regroupe de nombreuses associations fédérées sous l'icône de la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau. Je vous le dis parce que c'est une fédération qui finance nos activités de recherche grâce aux neurodons et à vos dons et qui a financé des activités de recherche directement liées à nos activités ici à Poitiers. Donc, cette campagne réunit pratiquement 2000 partenaires, dont les écoles. Nous sommes intervenus la semaine dernière au lycée Victor Hugo. J'y serai demain. Je vois que le proviseur est là. Bonsoir. Et donc, on intervient auprès des lycées, auprès des jeunes. Une étudiante en thèse qui est dans notre équipe, Claire Deschamps, ici présente, par exemple, est intervenue aujourd'hui dans les lycées pour leur expliquer ce qui l'a amené à devenir chercheur, le métier d'un chercheur, d'un jeune chercheur, d'un jeune thésard. Moi, j'interviens demain justement dans le lycée de Victor Hugo pour parler des choses que je pense qui va peut-être les intéresser, à savoir les troubles de la dépendance aux drogues d'abus, le cannabis et le point de vue d'un neurobiologiste et d'un chercheur. Des agences gouvernementales interviennent aussi, des groupes de recherche, des établissements médicaux. Donc on communique tous sur les progrès en matière de recherche sur le cerveau. Il y a trop d'informations sur cette diap. Donc je dis là aux étudiants, il ne faut jamais faire ça. Mais c'est par un peu paresse, parce que ça veut me permettre de regrouper tout en une seule fois. Donc comment ça se passe à Poitiers ? Donc on commence ce soir par la conférence sous le thème « Potentiel thérapeutique des cellules souches et embryonnaires pour réparer le cerveau ». Je vous présenterai les participants après avoir présenté la semaine. Mendes France nous accueille une deuxième fois le mercredi 12 mars. On accueille une collègue de Tours, Catherine Belzung, qui est docteur et chercheur en neurosciences et qui va nous parler de cerveau et dépression. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand nous sommes stressés, quand nous sommes déprimés aussi ? Donc Claire, on en a parlé, qui participe qui intervient auprès des lycées. Moi-même, j'interviens donc demain. Et cette année, ça concerne beaucoup moins le grand public, mais je vous informe que la Semaine du Cerveau est couplée avec la journée sur le vieillissement cérébral. C'est une journée qui est organisée avec nos collègues, dont Jean-Luc Méteau, ici présent, de la fac de médecine. Elle est organisée tous les ans. Donc c'est une journée qui regroupe tous les chercheurs, Poitevin et au-delà, Vienne, de la région, qui travaillent de près ou de loin sur le vieillissement cérébral. Alors, il y a bien entendu les médecins, il y a bien entendu nos collègues de la fac de pharmacie, je vois ici Guylaine Page. Il y a, nous avons aussi nos collègues de la fac de sport pour les troubles de la motricité, de la fac de psycho, les psychomotriciens. Donc, c'est tous les spécialistes qui travaillent de près ou de loin dans le thème du vieillissement cérébral qui se regroupent, qui se retrouvent lors d'une journée, une fois par an. Et donc, on communique entre nous. On a des centres d'intérêt, des méthodes d'approche très différentes, et ça nous permet de nous retrouver lors de cette journée. Je dois dire, puisqu'on en parle, que la région soutient la recherche sur le vieillissement cérébral, puisque nous bénéficions d'un contrat de projet État-région dont le thème est vieillissement cérébral et handicap. Donc nous sommes soutenus par la région, et nous remercions la région pour son soutien pour la recherche fondamentale. D'ailleurs, juste entre nous, la région nous soutient plus que l'État, hein, si vous dire. Et ce n'est pas parce qu'on est en période d'élection, parce que ça a toujours été le cas. Voilà. Donc, et nous avons une conférence de presse. Alors, sans plus tarder, on va commencer la soirée. Je vais vous présenter les participants, dans l'ordre des personnes qui sont présentes à ma droite. Donc, Valérie Corona, qui d'ailleurs va commencer. Valérie Corona est une maître de conférence en neurosciences, elle travaille dans mon équipe. Elle va vous présenter la définition de ce que c'est que les cellules souches, l'historique des cellules souches et à quoi ça peut éventuellement servir, notamment en thérapie. Afsane Gaillard, qui est aussi maître de conférence en neurosciences, elle va vous présenter plus spécifiquement ses travaux de recherche. Valérie va vous les présenter aussi, mais Afsane Gaillard va se concentrer sur ses travaux de recherche une fois que l'introduction des cellules souches est faite, et notamment ses derniers résultats qu'elle a publiés dans un excellent journal scientifique. Cet article-là, qui date d'à peine deux mois, a été élu meilleur article en neurosciences françaises par la Société française de neurosciences pour l'année 2007, et donc va représenter la France au prochain congrès de neurosciences européennes à Genève en 2008. Donc en quelques diapositives assez vulgarisées, elle va vous présenter en quoi ses travaux ont mérité cette distinction. Alors, Ali Turan n'a pas pu être présent parmi nous. C'est un professeur à la fac de médecine qui travaille sur les cellules souches. Mais Valérie Corona va présenter quelques diapositives qu'il lui a passées. Donc, nous l'excusons. Il avait des priorités qu'il ne pouvait pas déplacer. Donc, Jean-Luc Méteau, médecin, neurologue. Certains peut-être d'entre vous le connaissent à la fac de médecine. Qui fait des consultations dans le cadre des maladies neurodégénératives, et entre autres, et nous présentera le point de vue du neurologue. Nous sommes, nous, des chercheurs. Nous travaillons sur des modèles animaux en ce qui concerne Valérie Corona, Afsane Gaillard et moi-même, et des modèles de culture cellulaire. Et nous avons besoin que quelqu'un comme Jean-Luc Méteau, pour nous ramener à la réalité et aux difficultés d'appliquer ce qu'on espère, nous, appliquer chez l'homme. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la place à ma collègue, Valérie Corona. Voilà. Tu veux te mettre là ou tu préfères que je te décale ça ? Voilà.
Bien, bonsoir. Je vais vous présenter les cellules souches et le cerveau. Alors, j'ai fait un condensé de deux présentations, la mienne et puis celle du professeur Ali Turan, donc, qui s'excuse de son absence. Alors, pour vous introduire cette conférence sur les cellules souches et le cerveau, j'ai récupéré sur Internet cette image du phénix, qui est le mythe même de la régénération. Et c'est ce pourquoi, en fait, on travaille sur ces fameuses cellules souches, puisqu'on espère réparer, même sans régénérer complètement un individu, c'est évident, mais au moins réparer l'individu au moyen de ces cellules souches. Alors, la régénération des animaux, en dehors de la mythologie, est quelque chose qui intéresse les chercheurs depuis quelque temps déjà, puisque ces trois personnes qui travaillaient sur les crustacés ou sur l'hydre d'eau douce ou encore sur la salamandre avaient, au cours du XVIIIe siècle, montré qu'effectivement, les animaux peuvent régénérer une partie du corps. À titre d'exemple, l'hydre d'eau douce peut régénérer toute une hydre. Si on en coupe un petit bout, elle régénère complètement. Et les lézards ou salamandres, je pense que vous savez tous qu'elles sont capables de régénérer des pattes ou des queues. Alors, chez nous, chez l'être humain, bien sûr, il n'y a pas cette régénération-là. Mais avant de parler des possibilités de régénération, je vais dire où est-ce qu'on a des cellules souches et d'où nous venons. Alors, nous sommes tous issus d'une cellule souche qui est la cellule œuf, donc qui est produite après fécondation. Cette cellule ensuite se divise et donne naissance à cette formation, hein, c'est le futur bébé. Ça donne naissance en gros au placenta. Et cet amas de cellules va donner naissance au futur être humain. Donc on ne ressemble à pas grand-chose, mais c'est ça qui contient toutes nos cellules souches. Et ce sont les fameuses cellules souches humaines sur lesquelles, en fait, il y a actuellement un débat, il y a eu un débat éthique. Je vous en parlerai après. Cet amas ensuite continue à se multiplier et puis donne naissance à d'autres cellules souches qui vont former notamment le tube digestif et les poumons, donc l'intérieur, les muscles et le sang, ou à l'extérieur, enfin plus à l'extérieur, la peau ou encore le système nerveux. Et puis, on continue à grandir, hein, le bébé continue à se former, il y aura donc le petit, le futur petit, et puis à la naissance, on peut récupérer des cellules souches dans le cordon ombilical, et puis bien sûr, ce que récupèrent les parents, ce sont le futur enfant, enfin l'enfant quand il naît, c'est évident. Et cet enfant-là contient encore des cellules souches qui vont lui permettre de grandir et donner naissance à un individu adulte. Donc ça, c'est ce qu'on connaît. Alors, à propos de ces cellules souches, donc je vous ai dit, il y a 2-3 diapos, qu'effectivement, on a des cellules souches à la naissance qui sont ces cellules embryonnaires. C'était cet amas dont je vous disais qu'il ne ressemble à pas grand-chose, mais qui va nous former. Et bien, à partir de cet amas, en 1998, donc ça fait 10 ans maintenant, un chercheur, un scientifique, James Thompson, a réussi à récupérer des cellules souches embryonnaires humaines qu'il a récupérées sur des embryons surnuméraires qui étaient issus de la fécondation in vitro et pour lesquels il n'y avait plus de projet parental. C'est-à-dire que les parents disaient « on abandonne cet embryon congelé ». Et donc à partir de ça, avec le consentement des parents bien sûr, à partir de cet embryon, il a pu récupérer des cellules souches humaines. Alors en France, depuis 2006, on peut faire ça aussi, on peut récupérer sur des embryons sans projet parental des cellules souches humaines. Mais il est absolument interdit en France de créer un embryon pour récupérer des cellules souches humaines. Donc ce sont les comités d'éthique qui ont statué donc, sur ce statut-là, justement. Alors pourquoi est-ce qu'on veut des cellules souches embryonnaires humaines? Eh bien ces cellules souches embryonnaires ont surtout le potentiel de générer toutes les cellules du corps. Et donc si on les cultive dans les conditions appropriées, on peut faire des cellules du cerveau, des cellules du sang ou des cellules du cœur. Et donc, on imagine qu'avec ces cellules-là, on pourra remplacer le tissu qui est détruit. C'est ce qu'on imagine, enfin, c'est ce qu'on aimerait faire. Alors, est-ce qu'il reste des cellules souches dans l'organisme adulte? Puisque finalement, cela, ça ne poserait pas trop de problèmes. Alors, ces cellules souches dans l'organisme adulte, cela encore, la mythologie nous raconte plus ou moins que ça existait déjà, puisque c'est le mythe de Prométhée qui se faisait manger son foie et que le foie régénérait en permanence. Donc oui, il y a des cellules souches dans le foie. Il y en a aussi dans l'intestin, dans la peau, au niveau de la peau. Hein, c'est, tous les jours, on perd des cellules de peau puisque la peau se désquame et elles sont remplacées par la prolifération de ces cellules souches-là. D'autres cellules souches qu'on connaît bien, ce sont celles de la moelle osseuse qui donnent naissance aux cellules du sang. Et celles-là, on les a greffées, les premières greffes de cellules de moelle osseuse ont été faites à la fin des années 50 sur des chercheurs yougoslaves qui s'étaient irradiés accidentellement. Et donc, ils ont reçu cette greffe de cellules de moelle osseuse et ils ont pu, pour une partie d'entre eux, survivre après cette greffe. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs quand on pratique des greffes de cellules sanguines. C'est ces cellules-là qu'on a. Alors, il y a aussi des cellules souches dans le nez. Donc celle-là, elle régénère les cellules du nez, alors a priori on s'en fiche, mais pas tant que ça, puisque si elle ne régénérait pas, on ne pourrait plus sentir ce qui se passe autour de nous. Et puis on en a aussi au niveau des muscles. Alors qu'est-ce qu'il en est de ces cellules-là? Donc je vous ai dit qu'on s'en sert de ces cellules pour faire de la thérapie cellulaire, pour le sang, c'est connu, les greffes de moelle osseuse, pour la peau aussi, pour les grands brûlés. Si quelqu'un est très gravement brûlé, de façon importante, on peut récupérer chez cet individu des morceaux de peau encore intacts, et cette peau va être cultivée et pourra être greffée au patient lui-même, donc au bout de 3-4 semaines. Et donc on aimerait bien s'en servir, bien sûr, pour réparer le cerveau. C'est ça la grosse question. Alors, Ce que vous connaissez, donc, c'est en cancérologie. Hein, pour les personnes qui ont un cancer, des fois, on fait une irradiation pour supprimer les cellules tumorales et on va ensuite greffer des cellules souches du sang pour reconstituer le sang. D'accord ? Je passe un peu vite parce que ce n'est pas l'objet du cerveau. Et puis, plus récemment, on a fait des essais cliniques pour réparer le cœur à moyen des cellules souches du sang. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? C'est des patients qui avaient des infarctus du myocarde, donc des crises cardiaques, quoi, des problèmes de cœur. On a injecté soit rien, sur un groupe témoin, soit injecté des cellules souches qui viennent de moelle osseuse. Et on a constaté sur deux essais cliniques, enfin, il y a eu quatre essais, enfin, sur deux essais, on n'a rien vu. C'est-à-dire que ça ne changeait rien de greffer ou pas ces cellules souches. Et sur deux autres essais, on a vu un effet bénéfique des cellules souches greffées. Donc en fait, on ne peut pas trancher. Donc il y a d'autres essais en cours. Mais en tout cas, ça pourrait avoir un intérêt par rapport à la réparation du cœur. Donc maintenant, j'arrive vraiment à l'objet dont on traite aujourd'hui, le cerveau. Alors, le cerveau, ça a été très longtemps un mystère parce que le cerveau, rien qu'à l'aspect extérieur, ça a l'air relativement compliqué, c'est tout plissé. Et puis, à l'intérieur, il y a des cellules ici, ce sont les neurones qui ont plein de prolongements et c'est très, très intriqué. Donc, on s'est dit, si jamais il y a une cellule qui va naître là-dedans, comment elle va savoir où elle doit aller et comment elle va savoir quel prolongement elle doit faire. Ça avait l'air trop compliqué. Et donc, pendant très longtemps, on avait laissé ça de côté. Mais pourtant, dans les années 60, un des chercheurs, Notenbaum, notamment aux États-Unis, s'intéressait au chant du canari. Alors, il va me dire le lien avec ses cellules souches. Et bien, ce canari, au printemps, enfin, chante pour séduire la femelle. Hein, le mâle a un chant. Et ce qu'il avait constaté, c'est que le canari, contrairement à d'autres oiseaux, change de chant chaque année. Et donc, la question qui s'est posée, c'est pourquoi est-ce que ce canari change de chant chaque année ? Et il s'est dit, ben, peut-être qu'il y a des nouvelles cellules qui sont formées au niveau du centre du champ. Et c'est là qu'il a découvert qu'effectivement, chaque année, ce canari a de nouveaux neurones qui s'intègrent au niveau d'un centre qui contrôle le champ. Et c'est lui donc qui a démontré pour la première fois qu'il y a des nouveaux neurones qui peuvent être ajoutés dans le cerveau. Alors le canari, c'est mignon, mais ce n'est pas l'être humain, bien sûr. D'autres travaux ont été faits chez le rat, qui se rapproche déjà un peu plus de nous d'un point de vue évolutif. Et chez le rat aussi, à la fin des années 70, on avait vu des nouveaux neurones. Alors, à l'époque, on ne les voyait pas très bien, qui étaient insérés dans le cerveau. Mais ces travaux ont été très, très longtemps controversés, notamment à cause du fait qu'on n'avait pas les techniques nécessaires pour voir ce qu'on voulait voir. Et donc, fin des années 90, donc il y a 10 ans aussi, un médecin, qui travaillait avec des patients atteints du cancer, a fait cette étude pour voir de nouveaux neurones dans le cerveau. Alors, il avait des patients avec lui qui suivaient pour les traitements anticancéreux. Et dans le cadre de ces traitements, on injecte une substance qui s'intègre dans les cellules qui se multiplient. Ça permet notamment de voir la vitesse d'évolution du cancer. Ça a des fins thérapeutiques. Et donc, il avait demandé à ses patients s'ils acceptaient éventuellement de donner leur cerveau à la science, bien sûr, après leur décès. Et donc, chez ces patients, il a pu montrer chez des personnes de plus de 70 ans qu'il y a des cellules qui se sont multipliées au niveau du cerveau, ici en vert, on les voit ici en vert, et que ces cellules ont des marqueurs, expriment des caractéristiques de neurones, ici, qu'on visualise en rouge. Donc, c'est là qu'est réapparue cette thématique sur les cellules souches du cerveau. Il y a eu un autre événement décisif, et c'est ce qu'on fait aussi au laboratoire, c'est qu'on a pu cultiver ces cellules souches du cerveau. Donc on récupère un cerveau, là c'est un cerveau de rat. Au niveau de ce cerveau de rat, les cellules souches sont présentes dans une toute petite zone qui fait quelques, même pas millimètres d'épaisseur et quelques millimètres de longueur, c'est tout petit. On la récupère, cette région-là, on en extrait des cellules, et quand on les met dans des conditions qui leur permettent de se multiplier, ces cellules se multiplient, forment ces gros paquets qui continuent à avoir des cellules qui... Donc ça, chaque petit rond là, du paquet, c'est une cellule, et elle se multiplie encore plus, et on peut, au bout de quelques jours, d'une dizaine de jours, voir des nouveaux neurones qui apparaissent à partir de ces cellules souches. Et quand on veut vraiment vérifier qu'on a effectivement des nouveaux neurones, Donc on fait des marquages. Ici, en rouge, on a marqué les neurones. Donc dans cette culture-là, on a ici des nouveaux neurones. Il y a aussi les autres cellules du cerveau qu'on appelle les cellules gliales. Alors, ces cellules souches, quel est leur potentiel ? Leur potentiel, a priori, chez l'individu en condition de base, ces cellules souches vont surtout donner des neurones dans une structure qui sert à la mémoire, qui est l'hippocampe, et dans une structure qui sert à détecter et à mémoriser des odeurs, qui est le bulbe olfactif. Bon, c'est à ce qu'elles font de façon spontanée. Maintenant, dans des modèles animaux, donc je suis encore chez l'animal, dans des cas très particuliers de lésions, où on tue de façon massive des neurones qui vont depuis le cerveau jusqu'à la moelle épinière et qui servent à bouger par exemple les mains, et bien dans ces conditions-là, si on tue massivement ces cellules, on a pu constater que les cellules souches peuvent éventuellement remplacer quelques neurones de cette structure-là. Donc elles ont un potentiel, mais ce potentiel est faible encore, enfin nécessite d'être activé. D'accord ? Alors qu'est-ce qu'on aimerait faire avec ces cellules souches ? On aimerait bien sûr réparer des cerveaux. Alors comment ? Soit en greffant des cellules souches. Donc dans ce cas, on récupérerait des cellules, pourquoi pas chez le patient lui-même. On les met en boîte, en culture, et quand on a suffisamment de cellules, on les injecte au niveau de la zone qu'on souhaite injecter. Ou alors, l'autre chose qu'on aimerait faire, c'est directement, au lieu de greffer des cellules, les sortir, les remettre après chez l'individu, ce serait directement injecter des molécules qui pourraient stimuler les cellules souches, stimuler leur potentiel, et espérer qu'elles veuillent bien aller réparer ce qu'il faut là où il faut. Donc c'est là où on est encore très limité, puisqu'on ne sait pas encore beaucoup de choses sur ce sujet-là, et notamment on ne connaît pas les mécanismes internes de contrôle. À titre d'exemple, nous avons vu qu'effectivement, il y a des facteurs de croissance qui peuvent contrôler ces cellules, qu'il y a des neurotransmetteurs, dont la dopamine, dont on va vous parler tout à l'heure, qui peuvent contrôler ces cellules, voire même des protéines du sang qui contrôlent ces cellules. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ces cellules ? Qu'est-ce qu'on prend comme cellules souches ? L'objectif, bien sûr, c'est de réparer le cerveau notamment. Donc, il faut générer des neurones. Est-ce qu'on prend des cellules souches ? Est-ce qu'on prend des cellules embryonnaires ? Les cellules souches adultes ont l'intérêt d'être déjà chez l'adulte, mais elles ont une limite, c'est qu'elles se multiplient quand même moins que les cellules embryonnaires. Mais à l'inverse, les cellules embryonnaires, surtout souches embryonnaires, risqueraient plus de générer des tumeurs, surtout celles qui sont de la masse interne, enfin celles du tout début du développement. Et donc la question, c'est... qu'est-ce qu'on va faire ? Et donc, pour le moment, on en est encore loin, du bout du chemin, qu'il faut encore de la recherche pour pouvoir faire des applications cliniques dans le futur. Et donc, je voulais remercier tous ceux qui nous soutiennent, le CNRS, l'Éducation nationale, le ministère, la région Poitou-Charentes, que Mohamed a déjà signalé, et puis aussi la Ligue contre le cancer avec les comités locaux de la Vienne et de la Charente. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci à Valérie. Merci Valérie pour cette excellente introduction. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on a appelé ça une table ronde, c'est qu'on passe tout de suite aux deux conférenciers et qu'on discute après avec le grand public, parce que parfois vous allez avoir peut-être votre réponse dans la conférence d'après. Donc je préfère qu'on continue et qu'éventuellement qu'on réponde à vos questions à la fin. D'accord ? Donc, Afsane Gaillard va nous parler plus spécifiquement de ses activités de recherche au laboratoire.
Bonjour, je vais à travers deux exemples montrer l'utilité des cellules embryonnaires pour réparer des régions lésées chez des modèles animaux de maladie de Parkinson et dans un modèle de lésion du cortex moteur. Donc ici, je vous ai représenté un cerveau. On voit le cortex qui est situé ici. Donc il faut savoir que la commande de tous nos mouvements volontaires provient de notre cerveau et plus particulièrement une région au niveau du cerveau qu'on appelle le cortex moteur. Donc le cortex moteur qui est situé, je vous ai schématisé ici en bleu, envoie des fibres jusqu'au niveau de la moelle épinière, au niveau de la moelle épinière, ces fibres vont entrer en contact avec des motoneurones, donc ce sont des neurones de la moelle épinière, et par l'intermédiaire de cellules donc, qui sont connectées à nos muscles, on peut avoir des contractions et des mouvements. Donc il faut savoir que le cortex moteur peut subir des lésions, des dommages tout au long de notre vie. Ici, je vous ai représenté les causes les plus fréquentes qu'on peut observer des lésions du cortex. Par exemple, à la suite des accidents de la circulation, on peut avoir des lésions au niveau du cortex moteur. À la suite des accidents vasculaires cérébraux ou dans certaines maladies neurodégénératives, donc les maladies du cerveau. Et les causes, les conséquences de ces lésions sont manifestes par des paralysies, incapacité de mouvement volontaire ou des atrophies au niveau des muscles. Et il faut savoir qu'à ce jour, il n'existe pas de traitement curatif pour réparer les différentes régions du cortex qui sont lésées. Donc ici, je vais vous présenter des travaux qu'on a obtenus chez la souris comme modèle animal. Donc ici, je vous ai représenté le cortex moteur. Donc en bleu, on voit des neurones, donc des cellules qui sont connectées par l'intermédiaire de ces fibres avec différentes régions du cerveau. Et le point le plus éloigné ici, c'est la moelle épinière. À la suite de la lésion, que ce soit mécanique ou chimique, on peut avoir une dégénérescence de ces fibres qui sont connectées avec différents cerveaux. Donc la question qu'on s'est posée, est-ce qu'il est possible, en utilisant des cellules embryonnaires, de récupérer, rétablir les fibres qui sont en dégénérescence à la suite des lésions? Il faut savoir qu'un des problèmes majeurs après la transplantation, c'est comment identifier les cellules transplantées et leur projection des neurones de l'animal qui reçoit le transplant. Pour résoudre ce problème, on a utilisé des souris qui contiennent une protéine fluorescente dans leurs cellules. C'est un marqueur, une protéine qui existe de façon naturelle chez la méduse. Donc cette protéine a été isolée et introduite dans les cellules de la souris. On obtient des souris vertes. Donc l'intérêt pour nous, c'est que ça nous permet, en prélevant une partie du cerveau de ces souris et les transplanter chez des souris adultes, de visualiser l'emplacement du transplant et surtout voir si ces cellules transplantées sont capables de régénérer ou remplacer les circuits qui sont en dégénérescence. Donc le protocole qu'on a utilisé ici, donc ici c'est la procédure de transplantation que je vous ai schématisé. Donc on va prélever une région au niveau du cerveau des embryons de souris vertes qui va donner naissance au futur cortex moteur. Chez des animaux adultes, on va faire une lésion par aspiration d'une partie du cortex moteur et les fragments qu'on a prélevés ici, on va les placer dans la cavité lésionnelle. Et on va attendre plusieurs mois et par la suite, on va étudier le développement des cellules transplantées et voir est-ce qu'on peut récupérer les circuits qui étaient en dégénérescence par ces cellules embryonnaires. Donc ici, je vous ai présenté une coupe de cerveau. Donc, tout ce qui est marqué en vert ici, ce sont des fibres qui sont issues des cellules transplantées parce que le transplant provient de cellules de souris vertes. Donc l'intérêt pour nous, c'est qu'on peut suivre les prolongements de ces cellules, les axons, donc les fibres qui sont issues de ces neurones transplantés et voir est-ce que ces fibres sont capables d'aller se connecter de façon appropriée où il y a des projections qui sont anormales. Donc ici, on est dans une région du cerveau qui est sous le cortex moteur. Donc le cortex moteur est situé ici. Et on voit beaucoup de projections, donc les fibres ici, dans cette région du cerveau. Il faut savoir que chez l'animal normal, cette région-là est connectée avec le cortex moteur. Donc les fibres qu'on observe ici sont de même type de projections qu'on observe chez l'animal normal. Donc je vous donne un autre exemple de cibles qui sont connectées avec ces axons des neurones transplantés, c'est la moelle épinière. Donc la moelle épinière, c'est le point le plus éloigné, le cible plus éloigné du cortex moteur. Et ici, on peut voir des fibres et des terminaisons au niveau de la moelle épinière, donc les neurones embryonnaires transplantés dans le cortex lésé de la souris sont capables d'envoyer des fibres de façon appropriée dans des régions qui sont normalement connectées avec le cortex moteur. Entrer dans les détails. Une des caractéristiques des fibres qui vont quitter le transplant pour aller vers différentes régions du cerveau, c'est la myélinisation. Qu'est-ce que c'est que la myéline ? La myéline, ici, je vous ai schématisé, c'est une sorte de câble qui va isoler les nerfs. Donc, les nerfs sont schématisés ici en vert. Et leur propriété, c'est d'assurer le passage d'informations d'un point à l'autre du cerveau. Donc, quand il n'y a pas de myéline, normalement, les neurones ne vont pas fonctionner correctement. Donc, on voulait savoir est-ce que les fibres qui sont formées après la transplantation sont myélinisées ou pas. Donc, ici en vert, on voit les fibres qui proviennent des neurones transplantés. Et on a utilisé un marqueur, un produit qui va nous permettre de visualiser la myéline. Et on voit ici qu'une grande partie des axons des fibres qui ont quitté le transplant sont myélinisées. Donc ça nous donne des indications sur le fait que ces axons peuvent fonctionner correctement. Donc ici, je vous ai schématisé. Donc on peut dire que grâce à des cellules embryonnaires, on peut récupérer point par point, restaurer point par point les circuits qui sont lésés à la suite ici d'une lésion par aspiration au niveau du cortex. Donc ces résultats, bien sûr, ont été obtenus chez la souris. Donc il faut vraiment être prudente. Mais ces résultats peuvent ouvrir des nouvelles perspectives quant à l'utilisation des cellules embryonnaires pour restaurer des voies nerveuses qui sont endommagées chez l'adulte. Donc là, je vais vous donner l'exemple d'une autre application de ces cellules embryonnaires, cette fois dans un modèle animal de la maladie de Parkinson. Donc je ne vais pas trop rentrer en détail. Jean-Luc peut-être nous en dira un peu plus. Donc il faut savoir que la maladie de Parkinson, c'est une maladie du cerveau qui est liée à dégénérescence, donc la mort d'une population de neurones qu'on appelle des neurones dopaminergiques. Donc ici, je vous ai schématisé ces neurones dopaminergiques, ici en bleu. Donc ces neurones dopaminergiques, leur corps cellulaire est situé dans cette région-là. Et par l'intermédiaire des fibres, ils vont aller se connecter à une autre région du cerveau. Et dans cette région-là, on va avoir la libération de la dopamine. Donc la dopamine, c'est une substance qui est sécrétée par ces neurones-là et libérée dans cette région-là. Il faut savoir que chez les patients qui sont atteints de la maladie de Parkinson, les troubles essentiellement de la motricité, donc par exemple les tremblements, sont dus à une diminution de taux de dopamine dans cette région-là. Donc la question qu'on s'est posée, est-ce qu'on peut remplacer ces neurones qui sont dégénérés, qui sont morts dans la maladie de Parkinson par des cellules embryonnaires ? Donc il faut savoir qu'il n'y a pas de modèle animal et spontané de la maladie de Parkinson chez les animaux de laboratoire. Donc on n'a pas des rats ou des souris qui ont la maladie de Parkinson. Mais par contre, on a des substances, des toxines qui peuvent nous permettre de provoquer la mort de ces neurones-là et obtenir des modèles qui miment certaines caractéristiques de la maladie de Parkinson. Donc ici, je vous ai schématisé un cerveau. Donc la région où se trouvent les neurones dopaminergiques ici. Et ces neurones, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, envoient des fibres vers une autre région du cerveau. Donc on va injecter une toxine au niveau des corps cellulaires des neurones dopaminergiques. Et sur ces coupes-là, on voit en marron, ce sont les neurones dopaminergiques qui sont visualisés. Ici, on est du côté intact parce que le produit a été injecté qu'au niveau la moitié du cerveau. Et de l'autre côté, on voit qu'il y a une disparition des neurones dopaminergiques. Donc le produit qu'on utilise va provoquer la mort des neurones dopaminergiques. Par contre, on n'a pas d'indication sur les symptômes provoqués par le produit qu'on a injecté. Pour voir les symptômes chez la souris qui reçoivent une injection d'un côté de ce produit-là se présentent sous forme des rotations. Les souris qui ont une lésion unilatérale d'un côté, sous l'effet d'injection de certaines substances, vont se mettre à tourner. Quand une souris tourne beaucoup, ça veut dire qu'il y a beaucoup de neurones qui sont dégénérés. Donc on utilise ces tests de comportement pour voir le degré de dégénérescence de ces neurones dopaminergiques. Donc ici, je vous ai présenté une souris donc, qui a, entre guillemets, la maladie de Parkinson. Donc ici, vous voyez, la souris tourne. Donc on va mesurer le nombre de rotations effectuées par l'animal, ce qui va nous donner des indications sur le pourcentage de dégénérescence des neurones dopaminergiques après l'injection. Donc, source au modèle animal de la maladie de Parkinson, on essaie de transplanter donc les neurones embryonnaires qui sont prélevés dans une région du cerveau qui va donner naissance à des neurones dopaminergiques plus tardivement. Donc, on prend des cellules embryonnaires. La région qu'on sait qui va donner naissance à des neurones dopaminergiques est prélevée et transplantée dans la région lésée. Donc ici, vous avez le transplant. Donc en rouge, on voit les cellules dopaminergiques. Donc on vérifie que les cellules qu'on a transplantées vont se différencier en neurones dopaminergiques. Et ici, on voit les fibres. Donc ça correspond à ce parti-là. Donc les fibres qui partent des neurones transplantés pour aller se diriger vers cette région-là. Et là, on voit les fibres qui sont déjà arrivées au niveau de cette région-là. Donc, on voit que les cellules transplantées se différencient en neurones dopaminergiques. Donc, il manquait la dopamine dans cette région. Donc, on voulait savoir est-ce que les cellules embryonnaires peuvent remplacer les cellules qui sont dégénérées et est-ce que ces cellules sont capables de se différencier en neurones dopaminergiques. Ces neurones envoient des fibres donc en empruntant cette voie et vont se distribuer dans cette région-là. Donc, là, on n'a pas d'indication sur la fonctionnalité. On voit qu'une partie de la voie est restaurée, mais est-ce que c'est fonctionnel? Donc, pour vérifier la fonctionnalité de ces fibres, on va faire des tests de comportement, donc les tests de rotation. On connaît les déficits, les nombres de rotations chez les animaux après la lésion. Et les mêmes animaux, on va regarder après la transplantation, est-ce que le nombre de rotations est diminué? Si le nombre de rotations diminue, c'est-à-dire que la dégénérescence a diminué. Donc ici, je vous ai schématisé les nombres de rotations qu'on obtient chez une souris lésée. Et les mêmes souris, après la transplantation, on voit qu'il y a une diminution importante du nombre de rotations. D'autres indices qui peuvent nous permettre de mesurer la fonctionnalité de ce type d'approche chez des animaux qui miment le modèle animal de la maladie de Parkinson, c'est mesurer après la transplantation le taux de dopamine. Je vous ai dit que les symptômes sont associés du fait qu'il y ait une diminution de dopamine dans une région du cerveau. Donc on va regarder chez une souris lésée le pourcentage de diminution de dopamine et chez une souris greffée, est-ce qu'il y a une augmentation de dopamine. Donc on voit ici en violet, c'est le taux de dopamine qui a été mesuré dans la région du cerveau qui reçoit les fibres dopaminergiques. On voit qu'après la lésion par rapport à une souris normale, il y a une diminution importante de taux de dopamine. Et après la transplantation, on voit qu'il y a une augmentation de taux de dopamine dans cette région-là. Donc, ces résultats, il faut être encore prudent, c'est comme pour le cortex. Donc, c'est des résultats qui sont obtenus chez des modèles animaux qui miment certaines maladies du cerveau. Mais malgré ça, cette potentialité de l'utilisation des cellules embryonnaires chez l'adulte est important du fait que jusqu'à maintenant, on pensait que les cellules embryonnaires transplantées chez l'adulte ne sont pas capables d'envoyer des projections à longue distance. Ces résultats vont ouvrir des perspectives quant à l'utilisation des cellules embryonnaires ou les cellules souches pour pouvoir restaurer les voies qui sont en dégénérescence dans des modèles animaux ici, des maladies que je vous ai présentées. Mais on espère un jour... Donc, dans plusieurs années, pouvoir utiliser ces approches-là pour essayer de réparer des circuits qui sont lésés chez des patients qui souffrent de ces maladies. Merci.
Merci, Afsané, d'avoir présenté tes travaux et d'avoir fait le maximum pour les rendre le plus vulgarisé possible. On va passer tout de suite à notre collègue Jean-Luc Huéteau, qui est le médecin neurologue, qui va nous dire que tout cela, c'est du rêve.
Oh, j'ai pas si mauvais esprit que ça.
Et que la réalité est beaucoup plus difficile.
Bonsoir à tous. Donc, effectivement, je vais essayer de vous parler des enjeux de la neuro-régénération dans la maladie de Parkinson. Je prends ce modèle de maladie de Parkinson que je connais. Ma collègue a essayé de vous expliquer la suivante, ce que c'est... Tu veux bien avancer la diapo? Ce que c'est que la maladie de Parkinson. Donc schématiquement, elle a expliqué donc qu'elle était liée à une dénervation entre une zone qu'on appelle la substance noire et une autre zone qu'on appelle le striatum. Et cette dénervation provoque les symptômes de cette maladie qui donne un ralentissement du mouvement qu'on appelle l'akinésie, qui donne une raideur dans les gestes qu'on appelle la rigidité et qui donne un tremblement, qui est ce fameux tremblement qu'on voit. La kinésie est aussi le faciès figé. Hein, vous avez tous en mémoire les images de Jean-Paul II à la télévision où il avait le faciès très inexpressif, une grande lenteur du mouvement. Et sur ce schéma ici, chez l'homme, on peut imager, entre guillemets, ces anomalies en mesurant en termes fonctionnels dans la zone qui doit être innervée le degré d'innervation. Et ici, vous voyez que l'innervation, c'est les sujets normaux, est particulièrement satisfaisant dans cette zone qu'on appelle le striatum. Et ici, vous voyez que chez un patient, au début, il y a un défect ici de ce côté par rapport à là, ce qui traduit en fait une dénervation partielle. Et puis avec l'évolution, là c'est un patient débutant, là c'est un patient modérément évolué, et là c'est un patient très évolué. Et donc avec l'évolution, il y a une dénervation qui s'accentue, le code couleur est simple, ce qui est en rouge est très innervé, ce qui est en jaune est dénervé. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, ça passe du rouge progressivement pour atteindre le jaune, pour dire qu'il n'y a plus de cellules dopaminergiques. Et avec le temps, donc, les symptômes deviennent de plus en plus sévères. Et donc l'enjeu, évidemment, il y a des traitements médicamenteux pour restaurer cette fonction, puisque la dopamine est comme une hormone qui manque. Il y a des traitements qu'on peut prendre par la bouche, qu'on appelle des traitements substitutifs, qui apportent un soulagement, mais avec des risques de complications. Et dans l'idéal, le rêve pour nous, médecins, serait de substituer et de réparer, de régénérer ces cellules qui dégénèrent. Et avec tout ce qu'on vous a montré, ça a été fait dans ce modèle de maladie de Parkinson comme dans d'autres modèles. Et je vais essayer de vous exposer quelles sont les limites pratiques de la mise en jeu de cette technique et quel est le chemin qui nous reste encore à parcourir. Par exemple, ça a été fait, elle vous l'a montré, Afsané, chez les animaux, et chez l'homme ça a posé des problèmes notamment de viabilité du greffon. On l'a bien montré ici avec ces patients transplantés où on voit qu'il y a ici une reprise du greffon avec une efficacité clinique de l'ordre de 30% d'amélioration, mais dans ce qu'on appelle des études ouvertes. Ce qu'on appelle des études ouvertes, c'est des études où les patients sont malades, on les opère, ils savent qu'ils sont opérés, on implante les cellules ici qui sont des cellules embryonnaires et on les examine pour regarder ce que ça donne. Et quand on fait ça, on a trouvé beaucoup de résultats positifs et favorables, mais avec un bénéfice qui était au maximum de 30% d'amélioration. La suivante. Alors vous savez, on fait aujourd'hui la médecine par la preuve, et le gold standard de la médecine par la preuve, c'est de faire des études en double aveugle où ni le médecin qui évalue l'effet du traitement ni le malade n'a conscience ou ne sait quelle est la nature et le type du traitement. Et donc, c'est comme ça qu'on teste tous les médicaments qui sont sur le marché. Et il faut que les médicaments aient montré leurs preuves par rapport à un contrôle qu'on appelle le placebo, puisque vous savez que l'effet placebo peut nous améliorer jusqu'à 30 à 40%. C'est dire qu'un traitement, pour faire son efficacité, doit montrer qu'il fait mieux que le placebo. Rien que de savoir que vous allez être amélioré peut suffire à vous améliorer substantiellement. Les détracteurs de certaines techniques ou médecines parallèles pensent que c'est comme ça que ça marche. Si c'est efficace et que ça ne coûte pas cher, c'est bien. Donc, on a fait une étude contrôlée qui était de prendre 74 patients. C'est des études comme ça vont faire les Américains. Dans ces 74 patients, ils ont fait ce qu'on appelle une randomisation. Ils ont tiré au sort ceux qui allaient recevoir la vraie transplantation et ceux à qui on allait ouvrir le crâne sans faire la transplantation. Donc quand on vous ouvre le crâne, vous imaginez qu'on vous a traité, évidemment. Et c'est ce qu'ils appellent donc la sham surgery. Et quand ils ont fait cette technique, ils ont vérifié la fonctionnalité du greffon en faisant l'imagerie fonctionnelle que je vous ai montrée sur la plaque précédente. Et donc on fait 50-50 au hasard, on tire au sort les patients. Il y a un lot de patients à qui on fait le vrai traitement et un lot de patients qu'on opère vraiment, à qui on ouvre le crâne et qu'on referme sans rien mettre comme produit, comme traitement. Et à 12 mois et 24 mois, on compare les deux groupes de malades pour voir qui était ou qui sont les plus améliorés. Et cette étude a eu la surprise de démontrer que les malades qui n'avaient pas reçu de transplantation allaient beaucoup mieux que ceux qui étaient traités. Patatras. Ce qui veut dire qu'en substance, quand on fait cette procédure et qu'on est dans une situation qu'on appelle double aveugle, ça ne marche pas. Et les malades qui avaient même reçu la transplantation allaient un peu moins bien puisqu'ils développaient certaines complications qu'on appelle des mouvements anormaux provoqués par le traitement, alors qu'ils ne recevaient pas de traitement. Autrement dit, ils ont d'ailleurs dû être traités et soulagés par une autre technique qu'on appelle la stimulation cérébrale profonde. Et donc, autrement dit, ça posait un problème, et c'est l'un des enjeux de la technique de spécificité. Tout se passait comme si, effectivement, il y avait eu une bonne connexion qui était refaite, notamment quand le greffon avait pris, mais cette connexion n'avait pas été en mesure de restituer toute la subtilité du fonctionnement des ramifications cérébrales qui sont extrêmement complexes. Et c'est ce que nous appelons le problème de spécificité fonctionnelle de ce greffon. Et ça, c'est l'un des enjeux, en tout cas à nos yeux, de ces traitements qui a été bien démontré par cette étude, qui méthodologiquement il paraissait tout à fait irréprochable et qui montre bien la limite de l'application de cette technique, puisque chez 74 patients, finalement, les placebos sont beaucoup mieux améliorés. Donc ceux qui n'ont pas de traitement et qui pensaient qu'ils avaient un traitement, voire la puissance de l'esprit, par rapport à ceux qui en ont eu vraiment. Alors, ce qui voulait dire en fait qu'il y avait une restauration de l'innervation dopaminergique, mais qu'elle n'était pas physiologique. Voilà. Et ça, c'est l'un des enjeux du traitement, la suivante. Alors, pour résumer, je ne vais pas plus m'attarder. Voilà un peu les chemins, je pense, qui restent à parcourir. Et je vais essayer de simplifier au maximum. C'est, premièrement, vous avez compris que ces cellules, elles sont immortelles, les cellules souches. J'espère que vous avez perçu ça. C'est des cellules immortelles qui, à la base, ont un potentiel de se développer pour devenir, entre guillemets, des cellules mortelles, soit du cœur, soit de la peau, soit du cerveau. Eh bien, l'un des enjeux, c'est qu'est-ce qui va déterminer comment bien les cultiver pour que, quand on va mettre un greffon dans le cerveau d'un patient, qu'il ne reste pas, même si on a la conviction que ces cellules ont été dirigées et ont été élevées pour devenir des cellules nerveuses avec une fonction précise, comment faire que parmi elles, il ne reste pas un élément qui reste immortel et qui provoque un dommage. Parce que vous savez ce que c'est qu'une cellule immortelle. C'est une cellule cancéreuse en substance. C'est ça la substance, c'est ça la définition entre autres. Et là, dans les expériences, certaines des expériences qui ont été faites, elles ont été limitées par le fait que si certains des greffons fonctionnaient bien, ça pouvait être limité par la constitution d'une prolifération de cellules souches qui formait en fait un îlot cellulaire qui n'était pas celui qui était souhaité. Ce qui veut dire que là, il reste encore des enjeux. Et deuxièmement, en dernier lieu, l'un des éléments importants, c'est comment faire que, même s'il y a une intégration anatomique remarquable, comme l'a montré ma collègue sur ces images de souris vertes, c'est très... ce qui est un travail absolument remarquable et innovant, il reste à montrer qu'au point de vue fonctionnel, en tout cas chez l'homme, ça s'accompagne d'une bonne réponse et d'une bonne restauration de la fonction, qui est perdue. Et l'exemple de l'étude que j'ai citée avant montre un peu le chemin qui reste à parcourir. Donc en substance, en tout cas à mes yeux, assurer un parfait contrôle du développement de ces cellules et apprendre à les diriger et à leur faire faire ce qu'on souhaiterait vraiment qu'ils fassent et pas autre chose, et avoir les moyens de contrôler ce qu'ils font, et deuxièmement, avoir les moyens de s'assurer qu'une fois qu'elles sont en place, elles s'intègrent parfaitement dans la subtilité extrême de la mécanique cérébrale pour permettre de restaurer la fonction déficiente. Et ça, c'est un enjeu important, et je pense qu'on a besoin encore de travailler un petit peu pour être parfait dans ce domaine-là. Alors, la suivante. Et je voudrais compliquer un peu les choses en vous disant que, en substance, si les perspectives sont prometteuses, cette technique, en tout cas chez l'homme, doit faire la preuve encore de leur sécurité, de leur spécificité. C'est ce que j'évoquais avec l'intégration à la spécificité fonctionnelle anatomique. Elle doit faire la preuve d'une amplitude d'amélioration suffisante parce que Là, vous avez vu que les améliorations dans les études ouvertes qui n'étaient pas en aveugle étaient de l'ordre de 30%. On a besoin d'avoir une amélioration beaucoup plus importante pour que ce soit justifié d'apporter, de faire des opérations, d'ouvrir le cerveau pour améliorer les gens. Et donc, il faut qu'il y ait donc un ratio bénéfice-risque acceptable. Et enfin, il faut avoir conscience que dans ces maladies-là, comme par exemple dans l'exemple de la maladie de Parkinson, au-delà de la perte en cellules dopaminergiques, il y a d'autres systèmes qui dégénèrent. Il n'y a pas que la dopamine. Dans la maladie de Parkinson, par exemple, c'est la dopamine qui donne essentiellement la raideur, le tremblement, etc. Mais cette maladie est associée aussi à des problèmes de marche, d'équilibre, parfois à des problèmes de fonctionnement intellectuel, et il y a d'autres systèmes de neurones qui dégénèrent, et c'est ces systèmes-là, pour nous, médecins, qu'on a besoin de régénérer, parce que c'est dans ces domaines-là qu'on a des traitements un peu moins efficaces et un peu moins performants. Et donc, c'est aussi un enjeu. L'enjeu n'est pas que dopaminergique, il est bien au-delà. Et donc, pour conclure, je dirais que malgré ces limites que j'ai essayé de poser, mais qui, loin de nous décourager, donne le chemin qui est encore à parcourir ensemble, il y a ces enjeux thérapeutiques qui sont importants. Voilà, je vous remercie, j'espère avoir été clair.
Merci Jean-Luc. Merci beaucoup. Nous avons compris que nous avons encore des soirées de week-end à passer avec Nora au laboratoire. Donc, ce que je vous propose, c'est de répondre à vos questions, si vous en avez. Nous sommes là à votre disposition.
Je vais vous. C'est peut-être une question un petit peu simple, je ne sais pas. Simplement, l'étude porte sur le cortex, une partie précise du cerveau. Je voulais savoir qu'est-ce qui a défini cette partie-là et pas une autre pour faire une transplantation.
Le choix du modèle, on voulait travailler sur un modèle où on connaît les symptômes. Donc on sait que le cortex moteur, vous savez au niveau du cerveau, au niveau du cortex, vous avez plusieurs régions. Vous avez une partie du cerveau cortex qui est responsable de la vision. Une partie, c'est le cortex moteur, donc vous avez différentes régions et les symptômes sont plus ou moins mesurables. Donc le cortex moteur, c'est une région où on peut mesurer facilement les déficits provoqués par la lésion.
On enregistre, je vous demande d'attendre effectivement.
Oui, non, moi j'ai une question simple. Je veux savoir, est-ce qu'il y a des cellules souches dans toutes les parties du cerveau, justement, ou bien uniquement dans le cortex, ou je ne sais quoi?
Ah, c'est peut-être Valérie Couronnat qui va pouvoir répondre.
Alors, des cellules souches, on en trouve dans une région principalement, qui est une toute petite zone qu'on appelle la région sous-ventriculaire. Et on en trouve alors quelques-unes aussi au niveau de la structure, d'une des structures qui intervient dans la mémoire, qui est l'hippocampe. Et en dehors de ça, les cellules souches sont très très rares, voire inexistantes.
Au sein du cerveau, bien entendu.
Au sein du cerveau, hein, bien sûr.
Qu'est-ce qui les provoque alors? Vous dites rares ou...
Alors, je dis rares ou inexistantes. Enfin, on me demande qu'est-ce qui provoque le fait qu'il y ait des cellules souches. Alors, rien ne les provoque vraiment. C'est que, en dehors de ces deux structures dont j'ai parlé, on n'arrive pas à isoler vraiment de formation de nouveaux neurones. Alors, on ne sait pas si c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de cellules souches, je pense qu'il y en a peu, on a déjà essayé d'en extraire ailleurs, ou alors c'est parce que ces cellules n'arrivent pas à se multiplier dans ces autres zones du cerveau.
Je vais vous demander d'attendre le micro parce que Mendes France enregistre la soirée. Merci.
Oui, bonsoir. Je voulais savoir, dans le cadre de la maladie de Parkinson, étant patient moi-même, si la thérapie des cellules souches est une suite logique d'une intervention d'un type d'une chirurgie cérébrale profonde.
Ça, je vais certainement laisser la parole à mon collègue Jean-Luc Huéteau.
Oui, alors le fait d'être traité par stimulation cérébrale profonde n'exclut pas la possibilité ultérieure de pouvoir bénéficier d'une avancée thérapeutique comme l'implantation de cellules souches. Hein. Le principe de la stimulation cérébrale profonde, pour ceux qui ne le savent pas, ça consiste à implanter des électrodes dans certaines zones cibles du cerveau. Dans le Parkinson, c'est en l'occurrence une petite structure qu'on appelle le noyau subthalamique, dont on pense qu'il joue un rôle important dans la modulation des circuits neuronaux qui sont impliqués dans les symptômes de la maladie. Et en mettant une activité électrique régulière à l'intérieur du système, tout se passe comme si, je dis bien tout se passe comme si, on restaurait le fonctionnement normal des circuits moteurs, en tout cas, entre les parties profondes du cerveau et le cortex, et ce qui permet la restauration d'un mouvement à peu près normal. Donc, c'est une intervention qui est pratiquée ici et dont on fait bénéficier certains de nos patients. Elle n'exclut pas à l'avenir qu'on puisse bénéficier d'autres techniques plus innovantes, puisqu'on peut retirer les électrodes et le stimulateur comme on le souhaite. Hein, c'est ce qu'on appelle la réversibilité de la technique. Voilà, donc c'est plutôt une source d'espoir.
Alors, j'aimerais profiter de votre question pour encore appuyer sur le fait que les travaux de ma collègue et d'autres collègues sur le sujet, donc de ma collègue Afsenekaya et d'autres collègues, concernent bien entendu la souris, qui a un cerveau qui est de 2 cm de taille, ce qui fait que les fibres n'ont pas une très longue distance à parcourir. Bon, le fait qu'on ait démontré quand même qu'elles arrivent à le faire est une avancée majeure, mais la distance reste faible. Donc, j'espère que je ne choque personne en disant que la prochaine étape, c'est de faire des essais chez les primates non humains. Donc, ce ne sera pas à Poitiers, ce sera en collaboration avec d'autres collègues, parce qu'il a une anatomie du cerveau qui ressemble un peu plus à la nôtre. Donc, ce sont des essais longs, lourds, coûteux, qui ne sont pas sans poser, bien entendu, des problématiques. Et donc, nous avons encore un très long chemin à parcourir, sans parler de nombreuses limitations que notre collègue et médecin Jean-Luc Eto a montré à la fin. Nous sommes heureux et confiants des résultats que nous avons obtenus, parce qu'elles étaient au-delà de nos attentes. Mais il reste que ce sont des résultats chez le petit rongeur.
Vous voulez dire que de toute façon, ça reste sur le plan purement études fondamentales.
Tout à fait. Afsanegaya, Valérie Corona et moi-même, nous sommes des chercheurs. Nous travaillons sur des cellules en culture, sur des modèles animaux. Nous avons fait une avancée dans la recherche fondamentale. Nous sommes en discussion, en étroite interaction avec nos collègues médecins. Nous espérons passer à l'étape supérieure et faire des essais sur les primates non humains. Mais c'est le début d'une histoire. On est au début de l'histoire.
D'accord. Non, je vais poser la question, c'était surtout pour savoir l'espérance d'un délai, le relais d'une thérapie qui existe.
C'est une question classique. Quelle que soit la pathologie et quel que soit le médicament, y compris un médicament pharmacologique, il faut une petite dizaine d'années entre le moment où nous, chercheurs, nous faisons une avancée et entre le moment où, si toutes les étapes sont traversées avec succès, avec ce produit ou avec cette procédure, il faut une dizaine d'années. Donc, que ce soit pour une molécule pharmacologique ou pour une procédure d'intervention, il faut compter une dizaine d'années. Avec la meilleure volonté du monde, nous ne pensons pas avoir fini nos travaux avec nos collègues sur les primates non humains avant au moins 5 ans, vraiment dans le meilleur des cas, parce que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Il faut étudier aussi l'efficacité à long terme, l'innocuité et tout ce que mon collègue Jean-Luc Couteau a présenté. Des transplantations dans le cerveau des patients parkinsoniens ont déjà lieu, mais pas avec la proposition que nous faisons. Et avant de changer les habitudes, et avec les problèmes que ces transplantations rencontrent, il ne faut pas espérer voir cette technique appliquée à l'homme avant une petite dizaine d'années.
D'accord. Merci.
J'espère que je parle sous le couvert de mon collègue.
Non, mais souligner, comme tu as dit, que c'est une étape normale. Quand vous achetez un médicament en pharmacie, il a subi toutes ces étapes au préalable et qui ont peut-être pris pour certains de ces traitements 10 ans et qui ont consisté à des aspects expérimentaux comme on a vu ici, une évaluation de la sécurité sur des modèles de rongeurs, puis des modèles de singes éventuellement, puis des patients humains non malades, puis enfin des malades. Et tout ça prend du temps. C'est des études qui ont de très grandes contraintes, qui demandent beaucoup de rigueur pour le développement avant qu'on arrive sur le marché et qu'on puisse généraliser pour les autres. Et donc là, on est vraiment dans une phase assez en amont, même s'il y a eu des développements avant chez l'homme.
J'ai deux petites questions à vous poser. La première concernant la croissance des fibres. Les cellules souches arrivent à recréer pratiquement des neurones, les neurones poussent. Est-ce qu'on sait les arrêter? Parce qu'il y a peut-être un moment où il faut que, une fois que les connexions sont établies, tout s'arrête.
Là, les résultats que je vous ai montrés, ce ne sont pas les cellules souches, mais ce sont les cellules embryonnaires. Donc, mm-hmm. ce sont des cellules qui se sont déjà différenciées dans une voie neuronale. Par contre, le problème avec les cellules souches, c'est vrai que, comme disait Jean-Luc, si on veut utiliser des cellules souches, à partir des cellules souches, par exemple, si on veut obtenir des neurones dopaminergiques, il faut être sûr que dans la préparation qu'on utilise pour la transplantation, il n'y a pas des cellules immatures, des cellules souches. Parce que ce sont ces cellules souches immatures, donc non différenciées, qui vont se mettre à proliférer, former des tumeurs. Donc on essaye de purifier, sélectionner les neurones, qui sont des cellules qui sont déjà des neurones. Mm-hmm. Donc et il faut savoir quand ça devient neurone, donc c'est là, comme tu disais, c'est mortel. Donc là, ils ne vont pas se mettre à proliférer. Donc notre problème, ce n'est pas d'arrêter la prolifération de ces cellules, parce que c'est des cellules embryonnaires, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces cellules prolifèrent et aller se connecter de façon spécifique vers des régions qui sont cibles de ces neurones.
D'accord. Au docteur Jean-Luc Oueto, j'ai retenu que lorsque vous faisiez ou lorsque des expériences avaient été faites en double aveugle, les gens dont le crâne avait été ouvert et non traité avaient des améliorations meilleures que ceux qui avaient été traités.
Ça, alors, c'est le fait de l'effet placebo. Hein.
Alors, est-ce que c'est, je comprends mal l'effet placebo dans ce cas, puisque aussi bien ceux qui ont été traités que ceux qui n'ont pas été traités doivent avoir la même réaction mentale à ce qui a pu leur arriver. Donc, pour moi, il y a une différence entre ceux qui n'ont pas été traités qui se remettent mieux et ceux qui ont été traités qui se remettent moins bien. Et j'aimerais savoir s'il y a une possibilité simplement du fait d'ouvrir une boîte crânienne, de couper un certain nombre de choses, que derrière, des connexions en meilleur état se mettent en place.
Non, en fait, je n'ai pas forcément été assez loin dans ma présentation pour rester le plus simple possible. Le fait d'endormir quelqu'un, d'ouvrir le crâne comme vous feriez un trou dans un mur, et ensuite le refermer, ne crée aucun dommage au cerveau. Vraiment, et c'est ce qui s'est passé. En revanche, ce qui a fait que les patients qui étaient traités réellement allaient moins bien, c'est que ces patients-là développaient des complications qui étaient liées au fait que chez certains d'entre eux, si le greffon avait bien pris, donc on avait bien atteint notre but, il n'avait pas pris de manière spécifique. Ce qui faisait que ces patients sécrétaient, en fait, avaient des cellules qui sécrétaient de la dopamine de manière anarchique et non en rapport avec les besoins, d'où des mouvements anormaux incontrôlés. Et c'est cette non-spécificité qui s'est traduite d'un point de vue clinique par une aggravation de leur état. Donc en fait, on avait atteint notre but, mais il y avait eu un autre problème qui était vraiment ce problème de qu'ils n'avaient pas été capables de reconstituer tout le câblage extrêmement complexe entre les cellules humaines qui se parlent de manière remarquablement complexe et élaborée. Et c'est ça l'enjeu, en fait. Et comme ils étaient, c'était allé trop loin, ils avaient des complications qui faisaient que ceux à qui on n'avait rien fait, paradoxalement, allaient mieux. Et c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Et c'est pas parce qu'on a été délétère en opérant, c'est pas du tout ça. Voilà, j'ai peut-être pas été assez clair, mais c'était vraiment ça, les enjeux. Soit le greffon n'avait pas pris et il se passait rien, soit quand il avait pris, il y avait une sécrétion anarchique et anormale de dopamine, ce qui était l'objectif qu'on voulait, c'était avoir de la dopamine, mais comme c'était pas spécifique, il se développait des complications, dont des mouvements anormaux, qui dégradaient l'état des patients. Et ceux à qui on n'avait rien fait, forcément, allaient beaucoup mieux. Et entre autres, c'est ce qu'on a appelé l'effet placebo.
L'effet placebo peut être tout à fait impressionnant. Il y a une étude de début des années 2000 qui a montré que chez des patients parkinsoniens, pour qu'on reste dans le même domaine, à qui on a fait avaler un placebo, à savoir aucune molécule active, et quand on fait de l'imagerie cérébrale pour savoir ce qui se passe dans le cerveau, ben ces patients parkinsoniens qui ont pris un médicament placebo, il n'y a pas eu d'opération, les neurones qui restaient, les neurones dopaminergiques qui restaient, parce que tous les neurones n'étaient pas détruits, les quelques neurones qui restaient produisaient beaucoup plus de dopamine que d'habitude, et le patient obtenait un effet bénéfique du placebo, parce que ces neurones restants produisaient plus de dopamine. Maintenant, pourquoi les neurones restants produisaient plus de dopamine, c'est une question à laquelle on n'a pas la réponse. Mais ça peut se traduire par des modifications de la chimie du cerveau.
C'est moi qui vais poser une question. Bonsoir. En fait, Jean-Luc, tu t'es positionné par rapport à la thérapie cellulaire. Je comprends tout à fait les limites, je les partage. Mais par rapport à la thérapie génique, puisque pendant un moment, elle avait l'air d'être en retard par rapport à la thérapie cellulaire, et puis je vois qu'elle reprend le dessus. Et en particulier, maintenant, on a les études cliniques qui ont démarré. C'est vrai que c'était en Californie. Mais est-ce que ça ne serait pas plus contrôlable avec des systèmes inductibles pour mettre au repos le noyau sous-thalamique ou au contraire stimuler le striatum ?
Alors c'est une excellente question. Le principe de la thérapie génique, c'est de dire, par exemple, dans tel système de neurones, il y a telle enzyme importante, qui est une protéine qui a un rôle particulier, qui est déficiente. Eh bien, on va prendre, par exemple, un vecteur viral qui va être un messager, et on va lui donner les moyens de modifier et de s'introduire à l'intérieur de la cellule malade, pour modifier le patrimoine génétique de la cellule malade, pour lui permettre de sécréter normalement l'enzyme qui est déficiente. Eh bien, il y a des expériences aujourd'hui qui ont eu lieu, bien sûr, sur des modèles animaux, sur des primates non humains. En gros, quand on dit primates non humains, c'est pour dire des singes, pudiquement, parce qu'on a un sens de la pudeur, vous savez. Et puis, aussi chez l'homme. Et les premiers résultats chez l'homme ont montré que s'il y a un bénéfice, il ne dépasse guère les 20 à 30% d'amélioration. Ce qui est très en deçà, en tout cas pour la restauration du déficit dopaminergique, de ce que peuvent donner d'autres techniques aujourd'hui, comme celles qui ont été évoquées, comme la stimulation cérébrale profonde. Ça, c'est un exemple. Il y a d'autres exemples où on a mis des facteurs de croissance. Des facteurs de croissance, ce sont des substances qui permettent la prolifération, qui aident à grandir en substance. Et ces facteurs de croissance injectés localement dans des zones qui dégénèrent, soit à l'aide de capsules qui les sécrètent, soit en les injectant directement, également ont donné lieu à des études cliniques, en tout cas et chez les animaux et chez l'homme. Et quand c'était prometteur chez les animaux, chez l'homme, on n'a pas eu d'amélioration de plus de 15 à 20%. Et donc un ratio bénéfice-risque et une amplitude d'amélioration qui n'est pas acceptable par rapport à d'autres techniques qui existent aujourd'hui pour l'instant. Et c'est ça les vrais enjeux. Ce qui veut dire que c'est pas que c'est pas bien, ça veut dire qu'il y a encore du chemin à parcourir pour perfectionner ces techniques et les rendre beaucoup plus opérationnelles et plus puissantes que ce qu'on a aujourd'hui.
Juste une petite question de curiosité, puisque l'imagerie permet de mesurer la régénérescence des neurones dopaminergiques, par le placebo. Est-ce que vous avez pu savoir combien de temps dure cet effet
C'est ma collègue Afsane Gaïa qui va répondre.
L'effet placebo.
Alors, l'effet placebo, donc, sous imagerie, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, permet de voir une régénérescence des neurones dopaminergiques.
Non. L'effet placebo n'a pas permis une régénérescence des neurones. Il a juste permis aux neurones qui restaient de libérer.
Ah d'accord.
Alors,
très bien.
Alors, moi, je fais un peu court. Je ne sais pas si mes étudiants ont ce cours-là sur l'effet placebo. Je fais 4 heures de cours sur le placebo. Et l'une des caractéristiques de l'efficacité d'un médicament placebo, c'est que sa durée d'action est très courte.
Voilà, c'est ça, c'était ça ma question.
Alors, un placebo par rapport à un médicament classique, il agit beaucoup plus rapidement, mais il a une durée d'action très courte. Et ce qui est très... Bon, on va pas, c'est pas grave, on va parler un peu de ça. quelqu'un qui a des troubles de sommeil qui prend un somnifère, il y a des fortes probabilités qu'il dorme avant même que la molécule active atteigne ses neurones. Parce qu'il est rassuré, il sait qu'il va bien dormir. Quelqu'un qui prend un placebo au lieu d'un anti-inflammatoire ou d'une molécule d'aspirine, ben, il va se sentir mieux, beaucoup plus rapidement que la molécule, si elle l'avait prise, avait son effet. Mais par contre, l'effet placebo dure beaucoup plus, beaucoup moins longtemps.
Merci.
Si je peux rajouter en substance, on va d'autant mieux qu'on attend d'être amélioré. Et donc là, il y a vraiment un rôle de la dopamine qui est dans la dimension de la motivation. Hein, parce qu'on ne l'a pas évoqué ici, mais la dopamine joue un rôle important dans la motivation. Et quand vous espérez être amélioré de manière puissante, même si on vous donne un produit qui n'a pas une action importante, l'action de motivation mentale que vous mettez en place par rapport à cette attente d'amélioration va faire que vous allez être amélioré puissamment. Et ça a été bien démontré par des études récentes. Et ça lève un peu le voile sur le potentialité de l'esprit humain, notamment, et le rôle de la motivation. Vous voyez ce que ça nous fait faire quand on doit gagner de l'argent, etc., par exemple.
J'avais donc des questions à poser. Je pense que je rejoins ce que vous pouvez dire au niveau de la motivation, puisque, comme vous le disiez, le cerveau humain, c'est vraiment une complexité totale. Et il y a tellement de choses au-delà des neurones ou qui touchent les neurones également. Je m'interrogeais sur le rôle des émotions et de tout ce que l'on pouvait ressentir au-delà de ce qu'on pourrait appeler des choses plus perceptibles. Il y a plein de choses plus fines aussi, plus sensibles qui se passent au niveau du cerveau. Donc savoir si parallèlement à toutes les recherches menées, il pouvait également y en avoir sur les émotions, sur l'état d'esprit de la personne, hein. Pour guérir, je pense que ça peut être très important aussi, s'il y a des contrariétés ou au contraire de grandes nouvelles, même tout à fait extérieures à toutes les maladies.
Notre collègue que nous recevons mercredi, Catherine Mezung, va aborder un peu cette question. Va aborder la question de quelle est la conséquence de l'anxiété, de la dépression sur la chimie du cerveau. Donc du fait, elle va aborder des questions relatives aux neurosciences comportementales, cognitives et leur reflet au niveau du cerveau.
D'accord. Et pardon, je voulais également vous interroger, puisque toutes les maladies du cerveau connues jusqu'ici ont de toute façon bénéficié de traitements déjà. Donc savoir si vous aviez pu isoler certaines molécules qui avaient des effets dans des cas très particuliers que vous trouviez particulièrement intéressants. Savoir si, avant de poursuivre la recherche pour l'utilisation des cellules souches ou embryonnaires, il y avait également des molécules qui pouvaient être intéressantes. Et, donc notamment, on a parlé de l'interféron à un moment donné, ou je ne sais pas.
Voilà. Ça dépend des maladies neurodégénératives qui ont par exemple des traitements pharmacologiques. Donc il y a des médicaments pour diminuer les symptômes de ces maladies, comme par exemple la maladie de Parkinson. Vous avez d'autres maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Huntington. C'est une autre maladie qui touche une population de neurones qui sont situés au niveau du striatum où il n'y a pas de traitement pharmacologique. Vous avez des dégénérescences qui sont localisées, comme dans le cas de maladie de Parkinson, mais par exemple dans le cas de maladie d'Alzheimer, la dégénérescence est beaucoup plus diffuse. Donc en fonction de la nature de cellules qui est touchée, en fonction de la localisation, donc il y a plus ou moins des traitements, que ce soit des traitements symptomatiques qui diminuent les symptômes de la maladie, ou des traitements qui sont des traitements expérimentaux où on essaye de ralentir la dégénérescence des neurones ou remplacer les neurones qui sont en dégénérescence. Donc pour toutes ces maladies, en fonction de la maladie, l'approche et le traitement est différente. Donc il y a des maladies où il y a des traitements pharmacologiques ou il y a des maladies où il n'y a même pas de traitement pharmacologique.
Vous avez parlé d'interférons et mon collègue tout à l'heure a parlé de facteurs de croissance qu'on essaye de mettre dans le cerveau pour essayer de freiner la mortalité des cellules restantes. Et effectivement, il y a de nombreuses pistes. Nous avons orienté la table ronde de ce soir vers la piste des cellules souches, mais on aurait pu l'orienter vers d'autres pistes. Mais aussi, on l'oriente aussi vers nos spécialités, vers des choses qu'on comprend le mieux. On communique avec ce qu'on sait. Mais effectivement, il y a de très nombreuses pistes pour guérir, réparer, et traiter les nombreuses pathologies affectant le cerveau.
Oui, j'ai une petite question. C'est par rapport à ce que vous avez dit pour les expériences sur les souris. Quand vous dites que vous utilisez des cellules embryonnaires, est-ce que c'est des cellules qui sont déjà bien spécifiques, qui peuvent donner que des cellules dopaminergiques, ou bien c'est des cellules qui pourraient donner d'autres types cellulaires quand même malgré tout?
Donc, par exemple, si on prend l'exemple de des cellules embryonnaires qu'on utilise pour la transplantation dans maladie de Parkinson, dans le modèle animal, on voit pour qu'elle ait une région chez l'embryon qu'on sait que si on laisse l'embryon devenir adulte, ces neurones vont devenir dopaminergiques. Donc, ce sont vraiment des neurones qui sont engagés dans une voie de différenciation de neurones dopaminergiques. Et on ne prélève pas que les neurones dopaminergiques. Donc, on prend la totalité de tissus embryonnaires où vous avez d'autres types de neurones avec d'autres types de neurotransmetteurs, des cellules gliales qui sont nécessaires pour le fonctionnement de cette région qui sont présentes dans le transplant. Mais c'est des cellules, par rapport à la différence avec des cellules souches, les cellules souches peuvent donner naissance à n'importe quel type de cellules. Les cellules embryonnaires, ce sont des cellules qui sont déjà engagées dans une voie de différenciation neuronale et surtout, si ça vient de la région qu'on prélève, des neurones dopaminergiques.
Aussi, j'ai une autre petite question. C'est comment se fait-il que ces cellules-ci qui sont implantées emmènent des prolongements jusqu'au striatum et pas vers une autre structure? Pourquoi est-ce que c'est vraiment bien?
C'est une très bonne question, on ne sait pas. C'est qu'on essaie, on pense, vous savez, chez l'adulte, normalement, les cellules, les axones ne poussent plus. C'est pendant le développement, ces axones naviguent facilement pour trouver leur région cible. Mais chez l'adulte, le système est figé dans les connexions pour qu'il n'y ait pas d'aberration, qu'il n'y ait pas de problème. Quand on fait une lésion au niveau du cerveau, on pense qu'on va réactiver certaines molécules qui sont exprimées pendant le développement. Et de cette façon, les cellules embryonnaires qu'on transplante vont suivre ces molécules qui sont sécrétées, qui vont les guider vers la région où il faut qu'ils terminent leur développement.
Il ne faut pas oublier que les autres régions aussi n'ont pas subi de dégénérescence des axones. Et donc, la voie n'est pas libre non plus.
Mais votre question met le doigt sur quand même l'un des enjeux et l'une des difficultés de ces traitements. Parce qu'on veut les faire aller à un endroit précis et s'exprimer, se développer à un endroit précis, mais on ne connaît pas tous les déterminants qui les aident à aller vers cet endroit-là. Et donc, votre question est cruciale parce que c'est le nœud des progrès qui restent encore à faire. Vraiment.
Oui, une petite précision concernant, pour revenir sur ce qu'a dit la jeune fille, là, concernant le côté émotionnel, le côté, tous ces paramètres dont Jean-Luc Wetteau disait tout à l'heure que l'esprit avait une certaine force. Est-ce qu'on peut utiliser toutes ces phases d'anxiété, de doute, de dépression, de tristesse, de joie, enfin toutes les émotions, est-ce qu'on peut les intégrer dans vos études pour justement donner des facteurs d'amélioration des expériences que vous, des recherches que vous menez? J'ai l'impression que cette partie émotionnelle, elle représente un certain pourcentage, point barre, quoi.
Alors, je vois pas bien ce à quoi vous faites, ce que vous évoquez. Ce que je voudrais dire simplement, c'est qu'il y a plusieurs niveaux pour voir ces questions-là. Quand vous avez une émotion, c'est vraiment le cerveau qui l'exprime. Mais il y a un codage. C'est-à-dire que le cerveau fonctionne quand il vous provoque l'émotion. Il fonctionne avec des codes particuliers, de la même manière ou d'une manière assez proche, mais avec des zones différentes qui s'activent, que quand vous levez le bras pour attraper le verre et le porter à la bouche. Autrement dit, l'émotion a, pour moi, neurologue, un substrat organique et biologique. Elle est sous-tendue par des modifications du cerveau, plus ou moins spécifiques dans des régions de neurones qui sont spécialisées dans la perception et la production de l'émotion. Donc l'émotion n'est pas déconnectée de l'action et du fonctionnement du cerveau. Maintenant, il y a toute une partie de notre domaine qui consiste à étudier les émotions, essayer d'étudier quelles sont les modifications qu'il y a dans le cerveau qui sous-tendent les émotions. Et là où c'est plus difficile, c'est que L'émotion est beaucoup plus simple que de juste de prendre ce verre-là. L'émotion est beaucoup plus élaborée et complexe, et on va aux confins vraiment de la pensée et des choses comme ça, et c'est en ça que c'est difficile. Mais même quand on pense, on imagine, quand on se souvient, que c'est sous-tendu par des modifications du cerveau qui travaillent et qui... Et ça, ça donne simplement le champ de tout ce qui reste à parcourir. Mais il ne faut pas forcément découpler l'émotion et le fonctionnement du cerveau. Quand vous avez une émotion, c'est que votre cerveau fonctionne et que vous vivez et que vous existez. Alors, en retour, que ce qu'on pense et ce qu'on croit ait une action sur le cerveau et sur la manière dont on est, c'est incontestable, c'est vrai. Mais il faut essayer de garder un équilibre dans la façon de le voir. Je ne sais pas si j'ai répondu.
Oui, ça voudrait dire qu'il y a deux voies au niveau du circuit dopaminergique. Il y a deux voies bien distinctes, une voie moteur et une voie...
Alors, en fait, d'un point de vue très, très schématique, on considère que tout ça est de manière élaborée et segmentée en des territoires qui sont responsables en gros de l'activité motrice, prendre le verre, le soulever, etc., en des territoires qui sont responsables de l'activité, on va dire, cognitive, faire une opération, réfléchir, et en des territoires qui sont impliqués, je veux dire des territoires du cerveau et dans certaines zones cérébrales, qui sont impliqués dans la vie émotionnelle, la gestion des émotions. Mais en réalité, tous ces territoires, ils fonctionnent de manière intégrée. Ces informations sont intégrées et transmises d'un territoire à l'autre, ce qui nous permet d'avoir un comportement relativement harmonieux. Mais ce dont on se rend compte, c'est que dans des situations les plus primitives, par exemple la peur, où vous partez en courant, c'est l'émotion qui prime. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a tout le temps le dessus sur le reste. Elle prime notamment quand on est en situation de survie. Et ça, c'est comme ça qu'on s'est développé. Hein. Quand vous traversez la route et que vous entendez quelqu'un qui klaxonne, c'est un signe de danger. Vous avez un grand battement de cœur, une grande sueur, et puis vous partez pour traverser en vitesse en disant « Oh là là, il y a un fou furieux qui arrive. » C'est une émotion, ça permet la survie, ça vous a fait faire un geste moteur qui était salvateur, mais après, la raison reprend le dessus. Et donc tout ça est intriqué et on ne peut pas forcément distinguer complètement les choses.
Merci.
Je
ne
sais pas si je réponds bien à votre question.
Oui, merci.
On prend encore deux dernières questions.
Oui, vous imaginez l'espoir pour un malade de Parkinson, ce que vous avez dit en première partie, mais après le docteur Weto nous a un petit peu faussé la
c'est
note.
C'est pour ça qu'on l'a invité.
Non, mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que malgré les médicaments, ou malgré tout, la maladie continue de progresser, quoi. Je veux dire, malgré le traitement, les cellules disparaissent petit à petit, les neurones disparaissent petit à petit. Alors malgré toute cellule ou n'importe, il faut penser, avoir l'esprit qu'il faut réparer au fur et à mesure quoi, que les cellules disparaissent dans le cerveau, je ne sais pas.
Le problème, c'est que dans la maladie de Parkinson, on ne peut pas diagnostiquer la maladie très précocement. Donc, une fois qu'on a diagnostiqué la maladie, il y a une grande partie des cellules qui sont déjà dégénérées. Donc, bien sûr, il y a des approches complémentaires qui essayent d'empêcher la dégénérescence des neurones restants. Comme a dit Jean-Luc, donc on essaye d'utiliser des substances qui peuvent ralentir ou empêcher la dégénérescence. Et vous avez d'autres approches complémentaires qui permettent, comme on vous a expliqué, remplacer les neurones qui sont en dégénérescence. Donc, c'est-à-dire que comme c'est une maladie qui est diagnostiquée tardivement, donc quand on intervient, déjà il y a une grande partie des neurones qui sont dégénérés. Et on essaye, en utilisant des approches différentes, essayer de ralentir, comme je vous ai dit, ou diminuer les symptômes de la maladie. Donc, malheureusement, jusqu'à maintenant, il n'y a pas une approche efficace chez les patients qui peut permettre de ralentir le cours de développement de
cette maladie. Ce que je veux dire, c'est que malgré l'implant, est-ce que ça suffira pour arriver à pallier au manque, quoi? Ou alors il faudra peut-être continuer les médicaments malgré l'implant.
Oui, c'est ce qu'ils font.
Ça, on ne peut pas savoir a priori. C'est un peu prématuré pour nous.
J'ai été désigné comme briseur de rêves. Pardonnez-moi, j'avais le rôle le moins sympa, puisque c'est dans les applications, tout ce qu'on vous a montré avant, effectivement, est source d'espoir et fait rêver. Et je suis confronté tous les jours aux patients qui me demandent, mais ça, ce traitement, je le voudrais, c'est pour quand? Et quand on est dans ces situations-là, on ne peut pas raconter des histoires aux gens. Et donc, j'essayais simplement de dire que si c'était prometteur, il y avait encore un peu de chemin à faire, et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Enfin, c'était plutôt le sens de mon message. Hein. Voilà.
Je veux revenir sur une note peut-être que vous avez mentionnée. Je ne sais pas si ça peut paraître indécent ce que je vais vous dire. J'espère que non, parce que ce n'est pas du tout voulu comme ça. Il ne faut pas oublier que quand un patient est diagnostiqué pour la maladie de Parkinson, c'est qu'il y a déjà eu une perte de plus de 80-85% de ses neurones dopaminergiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que jusqu'à avant ces pertes-là, il vivait une vie plus ou moins normale. Quoique maintenant, certaines recherches montrent qu'il y a des signes précliniques. Je ne suis pas médecin, mais on commence un peu à les connaître. Mais en vulgarisant, on peut dire que jusqu'à 80-85% de mort neuronale, ou 75%, ça dépend bien entendu des individus, on vit une vie plus ou moins normale. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire que le cerveau est capable de s'adapter à des conditions extrêmes. Et il est capable de fonctionner, même avec une mort neuronale importante, ou une protéine qu'il ne produit plus, ou des synapses qu'il ne font plus, sans qu'on s'en rende compte véritablement au jour le jour. Donc quand vous dites comment on va faire pour remplacer les neurones au fur et à mesure, ben, peut-être que dans certains cas, en dehors de la maladie de Parkinson, on n'en a pas besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Que le cerveau est capable de s'adapter. Mais c'est vrai qu'au-delà d'un certain seuil, les capacités d'ajustement deviennent complètement dépassées.
Mais c'est quotidiennement que le malade de Parkinson s'adapte. C'est quotidiennement oui. qu'on s'adapte.
Mais une fois qu'il est diagnostiqué, bien entendu, oui. 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 Tout à fait. Tout à fait. Vous avez compris le sens de mon intervention? Une dernière?
Oui. Alors du coup, c'est vrai que moi, ça me fait penser quand même à la conscience de soi. Donc je me demandais si il y avait des implants qui étaient travaillés aussi avec un travail plus psychologique des patients. C'est-à-dire un accompagnement qui ferait qu'il y ait vraiment un développement de la conscience des cellules et qui puissent vraiment consciemment accompagner cette implantation de cellules. Je ne sais pas si ça existe quelque part ou si envisagé.
Pardonnez-moi, madame, j'ai pas bien compris ce que vous essayez. Quel est le sens de votre question?
Le sens de ma question, c'est que on parle d'effet placebo, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un effet de la conscience humaine sur sa régénérescence possible. D'accord. Y a-t-il des expériences scientifiques? Je sais que c'est jusqu'à présent, c'est absolument pas du tout envisagé. Mais est-ce que ça peut être envisagé? Est-ce que ça existe? Qu'il y ait un accompagnement de conscientisation de la personne, du malade, lorsqu'il reçoit une implantation et dans le suivi de cette implantation?
Alors, c'est une question importante. Mais vous avez vu dans tout ce qu'on a dit qu'il y a quand même d'énormes limites, enfin qu'il y a un certain nombre de limites techniques auxquelles on doit faire face. Et en général, quand c'est comme ça, on a tendance, alors c'est les mauvais côtés des scientifiques et des médecins, à beaucoup investir notre énergie à dépasser ces limites au plan technique. Et ce n'est souvent que quand les techniques sont bien élaborées et sont efficaces et fonctionnent, qu'on s'intéresse enfin à la dimension psychologique de cette technique. Donc ce que vous dites est peut-être quelque chose qui arrivera, mais quand le traitement sera opérationnel et qui sera disponible pour la majorité des patients et qu'on pourra en mesurer l'impact réel. Là, enfin, je ne conçois pas qu'on se mette autant en amont à essayer d'évaluer comment les gens ont conscience de leurs cellules souches quand on leur injecte pour essayer d'aller le mieux possible. C'est trop compliqué pour nous. C'est une étape qui doit venir après. Voilà.
Par exemple, pour la dépression, c'est un fait bien établi que certains antidépresseurs fonctionnent mieux. En tout cas, le patient reçoit un bénéfice plus important quand le traitement pharmacologique est accompagné d'une psychothérapie. On va arrêter la soirée sur ça. Merci d'être présents, d'être venus aussi nombreux. Pour ceux qui sont encore motivés, merci. Je vous donne rendez-vous à mercredi. Voilà. Merci. Bonne soirée.